émission littérature sur Radio Campus Orléans, en direct au téléphone avec Pascal Casanova pour le livre Kafka en colère, paru dans la collection Fiction et compagnie, au Seuil. Merci Pascal Casanova d'être avec nous.
Bonjour.
Une première question, en quoi Franz Kafka incarne le grand clivage structurel de la République mondiale des lettres?
Voilà, on commence fort.
Ça commence très fort, oui.
Je voulais que ce cas de Kafka soit une sorte de d'illustration de ce livre qui était très abstrait du livre précédent, qui était La République mondiale des lettres. Et donc, je pensais que c'était une bonne façon de raconter Kafka que de dire qu'il appartient à la fois à un espace très politisé et à la fois à un espace très littéraire. Et c'est en ça qu'il illustre la formation, la structure de la République mondiale des lettres.
Mais il y a un clivage structurel.
Oui, il y a un clivage structurel puisqu'il habite Prague, qui est fait de trois espaces différents, l'allemand, le juif et le tchèque. Et donc, il me semble que ces trois espaces apparemment cohabitent, mais qu'en fait, ils sont un des lieux les uns des autres dans l'espace mondial. Et que donc, c'est une structure très déchirée et déchirante pour ces écrivains.
Parce que vous parlez assez longuement dans votre livre justement de ces trois espaces littéraires, oui, notamment l'espace littéraire juif dans lequel s'inscrit pleinement Franz Kafka,
oui,
et la manière dont il va appréhender l'espace littéraire allemand, comment ils vont s'interpénétrer chez lui, en tout cas l'espace allemand et l'espace juif.
Oui, ce sont des déchirements. Ce que je voulais faire, c'est au fond aller du plus extime au plus intime. Et donc je voulais aller de Prague jusqu'au texte de Kafka. Et donc je voulais montrer que Prague était dans une situation beaucoup plus compliquée qu'on ne dit d'habitude. Et donc que ces gens avaient à choisir, ces gens avaient à se définir, à avoir des identités en lutte les unes avec les autres, et que donc ils étaient dans des situations très difficiles, et linguistiquement par exemple.
Oui, puisque Kafka a fait ce choix d'écrire en allemand.
Voilà.
Un premier choix fort qu'il fait.
On ne peut pas dire que ce soit un choix, puisque ces gens auraient voulu écrire dans une autre langue. Je pense que Kafka fait le deuil du yiddish, mais qu'il aurait voulu écrire en yiddish, qui est la langue nationale des juifs. Enfin, une des langues nationales, une fois que pendant leurs grands débats nationaux sur le choix entre l'hébreu et le yiddish. Mais à son époque, il y avait au moins 9 millions de juifs qui parlaient yiddish. Et donc, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il a écrit en allemand parce que c'était sa langue maternelle. Mais il n'avait pas le choix, je pense. Tous ces gens n'avaient pas le choix.
Et est-ce que c'est par cette confrontation dans ces trois espaces littéraires présents à Prague, présents dans la culture de Franz Kafka, oui, qui fait qu'il entre pleinement dans la compétition littéraire internationale?
Oui, je crois. En tout cas, je pense qu'à l'époque de Kafka, c'est un espace déclinant. C'est un espace qui perd de sa puissance et qui devient tchèque, et qui donc devenant tchèque, c'est une période entre 1890 et 1918, où Prague passe de capitale provinciale de l'Empire à capitale de la République tchèque. Et donc, ces gens qui parlaient allemand et qui étaient dominants sont en train de disparaître, sont en train de perdre leur puissance et leur pouvoir. Et donc, c'est ça que je raconte aussi.
Oui, vous y passez des longs passages, plusieurs centaines de pages, pour nous expliquer justement cette histoire-là qui ne nous est pas forcément bien connue. Et c'est là où il y a ce grand clivage structurel dont vous parlez. Pour moi, enfin, une des clés, c'est quand vous dites à un moment donné « Or, seul le décalage constitutif, les contradictions multiples et insolubles engendrées par leur lien avec deux univers partiellement opposés, l'allemand esthète et le juif politisé, peuvent permettre de comprendre l'œuvre et l'action de ces intellectuels qui gravitent autour de Franz Kafka.
Oui.
Donc il y a ces intellectuels autour de lui, mais lui, il va faire des choix beaucoup plus forts qu'eux.
Oui, c'est-à-dire qu'il me fallait décrire ce qu'ils font pour montrer ce que Kafka ne fait pas. C'était très compliqué pour moi. Je crois que ces gens sont esthètes d'abord, puis sionistes ensuite dans leur grande majorité, mais que Kafka, lui, n'est pas sioniste et n'est pas esthète. Et je voulais montrer ce qu'il aurait pu être et qu'il n'était pas. Donc il me fallait montrer à la fois qu'il participait de cet univers, qu'il en était pleinement conscient, qu'il en partageait le choix, et pourtant qu'il n'en était pas, qu'il était seul, comme le dit Marthe Robert, mais d'une façon paradoxale. Ce sont des gens tellement paradoxaux que ce sont des gens très compliqués à comprendre, notamment cet ami de Kafka qui, je crois, lui a fait beaucoup de mal, qui était Max Both, qui voulait que Kafka lui ressemble. Or, je pense qu'il ne lui ressemblait pas du tout. Et je pense qu'il faut insister aussi sur leur fascination pour un judaïsme que moi je ne connaissais pas du tout, qui a été une découverte, qui était le judaïsme oriental. Tous ces gens étaient fascinés par des Juifs de l'Est qui habitaient dans ce qu'on appelait la zone de relégation et qui, par conséquent, avaient gardé, contrairement aux Juifs assimilés de l'Ouest, ces Juifs de l'Ouest qui avaient gardé les rituels, les formules, les cérémonies, les façons de s'habiller, de parler, etc.
Et ça, Franz Kafka, il va le découvrir par le théâtre ?
Il va le découvrir, effectivement, par le théâtre, c'est-à-dire ce théâtre qu'il découvre dans l'hiver 1911-1912, en fait, c'est un théâtre qui cherche à se libérer de toutes ces contraintes rituelles et religieuses. Mais la plupart des Pragois pensent qu'il s'agit de chants synagogaux, de rituels très traditionnels. Et il y a donc un malentendu entre Brod et Kafka sur la signification de ce théâtre à la fois traditionnel et en rupture avec la tradition. Il invente une modernité littéraire que Kafka va lui aussi suivre, mais c'est un paradoxe là encore une fois, puisque ce sont des gens qui inventent leur sortie du ghetto, on peut dire, leur modernité.
Et vous parlez à plusieurs reprises de ce tournant de l'hiver 2011 où Kafka découvre le théâtre yiddish. Vous dites que c'est une découverte qui bouleverse profondément sa vie, qui bouleverse profondément son œuvre. Vous parlez de cette anecdote, mais très très connue, de son journal le 25 décembre 1911. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Oui, c'est le seul moment où Kafka évoque une comparaison. Il parle des petites littératures et c'est une comparaison entre les littératures yiddish et tchèques et qui a été longuement étudiée par Deleuze et Guattari. Et je m'oppose en partie seulement à la lecture de Deleuze et Guattari puisqu'il n'avait lu que le livre de Wagenbach qui est consacré aux années de jeunesse de Kafka et seulement ils avaient une lecture très superficielle du gauchisme, entre guillemets, de Kafka, et il n'envisageait pas que Kafka puisse être nationaliste, ce que je crois il était, s'il est vrai que c'est l'époque de bouillonnement de la pensée nationaliste en Europe. Et les Juifs, au fond, étaient scindés entre les sionistes qui voulaient émigrer en Palestine et les bundistes qui étaient en faveur d'une solution socialiste. Et je pense que Kafka, contrairement à la légende, était un écrivain très politique et en faveur du socialisme, donc assez seul dans Prague, où les sionistes dominaient.
Oui, d'ailleurs, vous allez même un peu plus loin là-dessus, sur la manière dont Kafka considérait l'utilité de son travail social, de son travail qui le rémunérait, de son travail de bureaucrate. Vous dites que c'était pour alimenter sa colère sociale, sa colère politique.
Oui, je pense que ce travail qu'il faisait tous les jours, qui était un travail de bureaucrate et qui était décrit par Brod comme un travail de bureaucrate gris, était en fait un travail de libération sociale, puisqu'il œuvrait à la législation d'un travail, comment dire ça, en faveur du droit du travail. Et donc, il servait les intérêts du peuple qui renouvelait le rapport entre le peuple, l'entreprise et l'État, et qui protégeait de mieux en mieux les gens qui étaient mal protégés. Et Kafka avait une vision, je pense, très réaliste du peuple et des injustices qu'il avait à subir. Et donc, il avait une vision plus réaliste que Max Roth, par exemple, je pense. Et ce serait une erreur que de croire qu'il était l'objet d'un socialisme romantique. Il était, je pense, très réaliste.
Et en quoi il s'opposait directement à Max Brod sur la question ?
Max Brod était un socialiste non marxiste, un socialiste sioniste qui avait une vision un peu idéalisée et un peu abstraite du peuple. Il ne sortait pas beaucoup de Prague, qui n'avait pas beaucoup d'idées sur la question, qui était plutôt en retrait de toutes ces choses.
Oui, vous dites, on comprend alors que son travail, loin d'être cette tâche absurde de bureaucrate gris telle que l'a décrite Max Brod, était en réalité pour lui une façon d'alimenter, par des voies indirectes, sa colère et ses convictions politiques.
Oui.
Et surtout une manière très discrète mais très patente de lutter pour une cause sociale qu'il pensait juste. Ce faisant, et sans aucune contradiction, il épousait entièrement la cause de l'office.
Oui, c'est ça, l'office pour lequel il travaillait. Il a d'ailleurs été très apprécié comme employé. On n'a pas voulu le laisser partir en 14 ans alors qu'il voulait s'engager dans l'armée. Et donc, il a grimpé très vite les échelons. Et il était on a des textes de Kafka sur des machines-outils, par exemple des tours très dangereux en menuiserie, des tours de 3800 à 4000 tours minute. Et il se bagarrait pour que les conditions de travail soient meilleures, pour qu'on protège les ouvriers, pour qu'on les indemnise s'ils avaient des accidents. Et donc on a des textes très précis de Kafka sur la protection des ouvriers.
Et là, on est au cœur de votre thèse.
Voilà.
Kafka en colère.
Voilà.
Et comment vous êtes aperçu de... Comment vous avez commencé à fabriquer votre thèse d'un Kafka qui serait vraiment en colère, qui ne serait pas du tout dans ce romantisme qu'a sans doute favorisé les idées de Max Brod. Moi, j'en étais resté à là, et c'est là où, du coup, votre livre m'a complètement retourné dans ma vision que j'avais,
oui,
de Kafka.
Oui.
Où je vois un Kafka pleinement conscient, absolument pas du tout romantique, et qui est en colère, et que son travail de bureaucrate alimente, fabrique, alors que jusqu'ici je pensais que c'était un Kafka qui n'avait ce travail de bureaucrate que malgré lui, alors que vous dites tout l'inverse.
Oui, je pense qu'il a choisi ce travail pour alimenter son engagement politique, au fond. Je ne sais pas comment j'ai eu cette idée. Je pense que c'est au début par son engagement dans le yiddish et dans le yiddishisme, sa découverte des comédiens yiddish. C'est par là que je suis entré dans ce Kafka étrange et très différent, vous avez raison, de celui qu'on connaît d'habitude. Et même inverse, puisqu'il est le supposé être le porte-parole des écrivains individuels qui portent la souffrance individuelle, alors que moi je dis au fond qu'il est porteur d'un nous, d'une souffrance collective, d'un collectif qui serait la nation des juifs, au sens où les bundistes l'entendaient vers 1910. Et donc j'ai été la première étonnée de me plonger dans ce monde incroyable, comment dire, ni religieux, ni, comment dire ça, hyper politique. disais, au fond, Kafka vivait dans un univers hyper politisé. Il est peu probable qu'il ait eu d'autres problèmes que des problèmes politiques, au fond.
Et ces problèmes politiques, c'est là où vous renouvelez aussi la lecture que sur la lettre au père de Franz Kafka. C'est que leur lutte est avant tout une lutte politique.
Oui, puisque je pense que c'est toute une génération, au fond, qui a rompu avec son père. Il y a eu des grandes bagarres entre les pères et les fils, mais qui est vrai aussi pour Buber, pour Scholem, pour Weiss, pour beaucoup d'entre ces intellectuels de Prague, et que donc la lettre au père ne représente pas du tout un cas particulier. Je pense que les lectures biographiques comme celle de Lahire, par exemple, prennent la lettre au père comme seul repère, comme seule grille pour déchiffrer les textes, alors que la lettre au père n'est qu'un des éléments pour expliquer ce que cet écrivain avait dans la tête et qu'on ne peut, avec lequel on ne peut absolument pas s'identifier, en tout cas au premier degré, quoi. Il avait des problèmes et des analyses et des études très différentes des nôtres. Et donc, on ne peut absolument pas faire en tout cas une lecture identificatoire.
Non, c'est juste un symptôme, cette lettre.
Oui, oui, tout à fait. Mais on ne comprend pas ce qu'il a à dire si on ne comprend pas que ce n'est pas une opposition, comment dire, psychologique, mais une opposition sociale entre les pères et les fils.
Et j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. Qu'il est porteur d'un nous. Oui. Franz Kafka, porteur d'un nous, c'est là où, enfin, c'est le cœur de votre thèse. Il n'est pas porteur d'un jeu individuel qui sera en souffrance du tout. Il est porteur d'un nous, d'un peuple, d'une collectivité.
Oui, oui, je pense, oui. Que c'est une sorte de contresens, comment dire, les littéraires aiment à avoir affaire à un écrivain solitaire qui ne parlerait que de lui-même, mais je pense que c'est exactement le contraire, qu'il est porteur d'une... Il parle aussi de l'antisémitisme, je pense. Il parle pour les juifs occidentaux, donc l'inverse au fond des juifs orientaux, avec des instruments orientaux, et que sont les contes, le procès, la colonie pénitentiaire et tous ces textes qu'il a écrits. Je pense qu'il y a une profonde cohérence entre sa position dans le monde et ses textes.
Vous... En parlant d'un artiste du jeune, cette nouvelle qui est vraiment connue, je vous cite. Vous dites « Il semble que Kafka dissèque dans ce conte les formes les plus raffinées, les plus inaperçues, les plus paradoxales des souffrances que s'impose un être dominé qui devient lui-même le lieu des violences qui lui sont infligées par le monde social. Méconnaissant la violence... que lui fait subir ce monde, l'artiste retourne contre lui cette violence dont il croit être la cause. En d'autres termes, cette leçon d'anatomie est une dissection des formes les plus intériorisées de la violence douce qui s'exerce sur tous les dominés. » Et là, j'ai l'impression que la grande question à laquelle essaie de répondre Kafka, c'est pourquoi les pauvres et les dominés ne se révoltent pas. Est-ce que c'est la grande question de Kafka ?
En tout cas, pourquoi subissent-ils une domination qui les écrase tellement au point de ne pas se révolter tellement ils sont écrasés? Pourquoi le monde parvient-il à les écraser à ce point? Et je pense que si sa réflexion part des juifs de Prague, elle va ensuite s'intéresser aux femmes qui sont elles aussi dominées, et aux colonisés, en particulier la colonisation française. Et je pense qu'il a réfléchi toute sa vie sur les formes les plus subtiles de la domination, sur les formes les plus paradoxales de cette domination. Par exemple, quand on retourne contre soi-même, la violence, et qu'on est soi-même le champ de bataille... de cette domination qu'on pense qu'on est responsable de cette folie, alors que c'est le monde qui fait subir cette folie.
Et est-ce par cette question de la domination, mais du coup d'une domination qui est intériorisée par l'individu mais qui est porteur d'un « nous », est-ce que c'est par cette question-là que Kafka devient universel ?
C'est-à-dire, j'ai essayé de le particulariser ou de le reparticulariser le plus que je pouvais pour le réuniversaliser, pour le remettre dans les mains de tout le monde. Je pense qu'il faut l'historiciser le plus qu'on peut pour le réuniversaliser le plus qu'on peut. Je pense que la domination est la forme la plus répandue, au fond, de domination, et que par là, sans doute, il est devenu universel. Mais il faut... Comment dire ? Il faut savoir à quel point il est particulier avant de le penser universel trop vite, trop facilement.
Et c'est le cœur de votre ouvrage.
Oui. On a des bonnes raisons, au fond, de l'avoir universalisé, donc de l'avoir partagé, de le connaître tous un peu mal, mais je pense qu'il faut le connaître mieux pour l'universaliser mieux. Voilà.
Et du coup, on comprend... Comment, enfin, pourquoi Kafka mène une véritable guerre ? Quel est le cœur de sa colère ?
Voilà, je pense qu'il a une colère étrange qui est difficile à partager, en tout cas avec ses amis, qui sont des gens beaucoup moins subtils que lui. Broda a essayé toute sa vie d'interpréter Kafka, et il n'y est jamais parvenu. Il a voulu en faire un sioniste, il a voulu en faire un saint, ce qu'il n'était pas. Et donc, Broda s'est trompé sur Kafka et lui a fait beaucoup de mal, je pense.
Et le cœur de l'utilité de votre livre, c'est, outre une meilleure compréhension de Kafka, mais ça peut déboucher sur quoi ? Des nouvelles traductions ? Parce que c'est l'enjeu aussi, c'est que toute traduction est porteuse d'arrière-fond intellectuel sur la compréhension de l'auteur. Hein. Est-ce que ça peut déboucher sur des nouvelles traductions peut-être plus fidèles aux originaux ?
Oui, je pense qu'il devrait y avoir de nouvelles traductions critiques, en tout cas avec des notes de bas de page, des explications, des illustrations... et des choses plus sérieuses que ce qui existe aujourd'hui en français, puisque la Pléiade est une édition vraiment peu sérieuse qui a fait beaucoup de mal à l'œuvre de Kafka, puisque Claude David, qui en était le patron, a inventé un volume de fiction fictive, si je puis dire, en arrachant ses fictions au journal lui-même, qui était un instrument de travail pour Kafka. Et donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui de revenir à un travail qui serait plus proche de ce que Kafka avait fait, en s'appuyant sur la traduction allemande et en étant aujourd'hui, je pense, plus sérieux à l'égard des textes et des réflexions de Kafka. Et sans vouloir y voir une sagesse immémoriale qui n'y est pas.
Parce qu'on prend Kafka pour quelqu'un qui, pas prédisait l'avenir, mais enfin, on l'a beaucoup lu au XXe siècle comme quelqu'un qui avait pas des dons prédictifs, mais qui annonçait les grands bouleversements du XXe siècle.
Hein. Oui, on l'a beaucoup vu comme un prophète, le pauvre. Ce qu'il n'était pas, puisqu'il est mort en 24, il aurait annoncé quoi tout, le stalinisme, le nazisme, tout. Je crois que c'était un type qui cherchait une voie dans une situation politique très très complexe qui était la sienne, c'était bien suffisant.
Et vous balayez toute cette lecture prophétique qui nous fait mal lire Kafka.
Très très importante, même chez des gens très sérieux, même Marthe Robert lui fait dire des choses étranges. Il faut arrêter d'en faire quelqu'un d'exceptionnel d'à part. Il est exceptionnel puisque c'est un très grand écrivain, mais il faut arrêter d'en faire un enchanteur qui aurait découvert avant tout le monde. Je montre dans un texte qu'il avait, je pense, compris ce qui était en train d'arriver en Allemagne au moment où il s'était réfugié à Berlin, mais en aucun cas en faire de lui un prophète ou un porte-parole.
Parce qu'il y a cette la manière dont Franz Kafka considérait l'utilité de son travail littéraire. Et il y avait cette considération de Franz Kafka sur l'utilité de son travail littéraire, oui. Qui était de se mettre au service de la collectivité. Ça, c'est oui. Quelque chose qui m'a surpris aussi.
Oui, il insiste toujours sur, au fond, sur l'arbitraire du travail quand on n'a pas. Ce serait compliqué de revenir sur sa conception de l'écrivain, mais il ne concevait l'écrivain comme porte-parole d'un peuple guidé par un peuple venu d'un peuple légitimé par un peuple. Et donc, je pense que un écrivain qui n'aurait écrit que des choses pour lui-même était pour lui quelqu'un de parfaitement inutile. Et c'est très étonnant pour nous qui en avons une idée si différente, au fond. Voilà.
Il n'était pas dans un absolu de la littérature.
Pas du tout.
Il était très différent d'une conception batalienne ou blanchotienne de la littérature.
Non, je pense que Blanchot lui a fait beaucoup de mal.
Oui, voilà, je voulais en venir à ça justement, la lecture de... Parce que vous en parlez assez peu de la lecture blanchotienne de Kafka, mais vous êtes résolument contre.
Oui, résolument, oui. Oui.
Justement, parlez-nous-en, parce que j'étais étonné dans votre livre de ne pas trouver trop d'attaques, justement, contre les lectures de Maurice Blanchot, de Kafka.
J'étais tellement contre le cliché kafkaïen, contre tout le monde, que je ne pouvais pas attaquer tout le monde. J'ai attaqué Deleuze Guattari, j'ai attaqué... j'avais beaucoup d'ennemis, au fond, et donc je me suis dit que trop était trop... Et que la lecture blanchotienne devrait s'effondrer toute seule.
Mais pourtant, elle est toujours importante.
Oui, bien sûr.
Beaucoup encore utilisent Blanchot pour parler de Kafka.
Oui, bien sûr. Et Blanchot lui-même est quelqu'un de décisif pour la littérature contemporaine, mais française. Mais je pense qu'il est appelé de même pour Louis-René de Forest, pour Beckett, pour beaucoup de gens. J'ai payé très cher ma critique directe de Blanchot à propos de Beckett, et donc j'ai voulu atténuer un peu celle de Kafka, ou disons, penser qu'elle était immédiate, qu'elle serait évidente.
Mais vous ne l'avez pas attaqué frontalement.
Non. C'est encore quelqu'un de très puissant.
Toujours.
Oui.
D'accord. Parce que j'étais étonné du coup de... Ça, voilà. J'étais étonné de ne pas trouver... Je me suis remis à lire les textes sur Kafka de Blanchot qu'on trouve dans l'édition Pocket. Je crois que ça s'appelle « De Kafka à Kafka », quelque chose comme
c'est
ça.
Vrai,
je me suis remis à lire et, après votre essai. Et, oui, j'étais étonné. Enfin, j'étais révolté de la lecture qu'en faisait Blanchot.
En même temps, j'ai lu tellement de choses. J'ai cité tellement de gens. J'ai lu la critique en allemand, en anglais, en français, que je ne pouvais pas citer tout le monde. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans les trois grandes langues de critique de Kafka aujourd'hui, et Kafka reste un grand enjeu critique aujourd'hui. Il n'est pas du tout éteint, et on se bagarre toujours en trois langues pour le sens des textes.
Et dans cette bagarre en trois langues sur le sens des textes, est-ce que votre thèse a des similarités avec d'autres thèses qui ne sont pas disponibles en français, mais qui sont en allemand ou en anglais ?
Non, je ne l'ai pas rencontrée ailleurs. J'avais peur qu'elle ait déjà été développée, mais je ne l'ai pas rencontrée ailleurs. Même Michael Levy, qui a publié l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être, un livre sur Kafka et la politique, et qui considère que Kafka serait un anarchiste ou un socialiste libertaire, n'évoque pas cette hypothèse d'un socialisme juif, et donc que j'essaye de développer au fond comme un après, comme une suite de son livre. Voilà, de le vivre, oui.
Pascal Casanova, j'aimerais terminer sur votre introduction de Kafka en colère. Dans cette introduction, vous dites que la critique littéraire devrait devenir une science sociale.
Oui. Oui, je pense d'abord qu'il faut, je voudrais qu'on fasse un peu monter le droit d'entrée, c'est-à-dire que ce soit difficile de lire Kafka, que n'importe qui ne puisse pas donner son avis, qu'il y ait du travail avant d'entrer dans le texte. Et puis, je voudrais aussi que, comment dire, qu'on puisse, comme je l'ai fait, avoir recours à d'autres choses que la littérature pour lire la littérature. Il m'a semblé là, par exemple, que dans le cas de Kafka, il fallait se servir de l'ethnologie, qui est une science importante, et qu'il faudrait de plus en plus prendre au sérieux la critique littéraire de déchiffrement comme celle que je pratique, et qu'il faudrait établir des sortes de méthodes qui permettent de lire véritablement, de ne pas se satisfaire des clichés en littérature, mais de faire monter d'un cran le sérieux attaché aux choses littéraires, et donc d'en faire une science sociale, c'est-à-dire d'en faire une chose sérieuse.
Et sur quoi travaillez-vous actuellement?
Ah, je voudrais faire un livre sur la traduction.
D'accord.
Voilà.
La traduction en général?
La traduction symbolique, les enjeux symboliques de la traduction. Voilà.
Donc il y aura un petit peu de Kafka encore dedans?
Peut-être, peut-être.
Et on tombe toujours au terme de ce thème qu'il y avait dans la République mondiale des lettres?
Oui, voilà, je pensais que je ne l'avais pas traité suffisamment sérieusement, alors que c'est central, que c'est vraiment très important dans le champ mondial des lettres, et donc je voudrais y revenir.
Merci beaucoup, Pascal Casanova, d'avoir répondu à mes questions.